pom 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 pom. Bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe pour la récré de France Culture. Au programme Joli Dimanche et Promenade sur les GR, la textée de Jacques Vallée et une balade à la recherche d'un nouveau signe par Patrice Caumont.
C'est le signe des rêveries d'un promeneur solitaire au bord d'une étendue d'eau calme à peine ridée par la brise. C'est le signe de ceux qui sont nés près d'une calme étendue au flot dormant. Natif du signe, souvent brumeux et matinal, sera très vite dissipé, tout en gardant son air évaporé.
Et aussi une lettre expédiée du paradis par Mozart via Lucas Fournier, l'histoire du BBQ par Jacques Abertrand et une chasse aux inédits de Cicéron selon Dominique Muller.
Je pense que Cicéron regretter de ne pas être ni poète, ni écrivain de fiction.
T'es un peu jaloux.
C'est lui qui a dit « on est poète, on devient orateur ».
Une émission pré-printemps à podcaster pendant un an sur franceculture.fr, à réécouter 1000 jours à la page des Papous du 15 mars. Merci de votre fidélité à nos jeux Papous, jeux de rôle, jeux de mots, jeux de culture, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour lancer les Papous du jour, un nouveau Joli Dimanche, c'est le premier Joli Dimanche d'Eva Almassy. Un dimanche pastiche entre rêve et introspection, il suffit de s'allonger sur le divan. Eva ?
C'est le Joli Dimanche de Sigmund Freud. Si je vous entends bien, toute la semaine, vous avez rêvé de dimanche. Un cas de névrose dominicale. Tout le monde souffre de ça. À chaque fois, dimanche à la tête de votre belle-mère, tandis que votre beau-père se saisit d'un énorme couteau de boucher pour découper le gigot. Or, dans votre rêve, à cause de l'angoisse du dimanche, du farniente qui est interdit, verboten, parle sur moi, le gigot gigote et les haricots verts grouillent comme des fers. C'est votre propre maman qui sert la soupe. Une crème aux pointes d'asperges, symbole des repas de fête. Une soupe riche, uber riche. Mais votre désir refoulé, c'est de faire goûter à votre maman votre belle saucisse en échange de la purée et des flageolets. Vous vous réveillez de votre rêve, toujours au même point, quand votre maman vous fout une gifle, tient de quoi flageoler des genoux, et vous vous demandez ce que tout ceci signifie. Moi, sur moi et ça, Sigmund Freud, je fais vous le dire. Votre cure va durer 12 ans, ce qui vous fera 628 dimanches et moi le prix de 2 appartements. Quel joli travail du rêve. Ya, c'est vrai, l'inconscient travaille pour vous, même le dimanche, et vous fournit de quoi vous tracasser le lundi. Il y avait de l'agneau au déjeuner, mais vous finirez homme au loup. Wunderbar, le découpage du rôti vous a permis de revivre votre angoisse de castration. Enfant, en VO, Kinder, surprise, vous aviez un petit pénis, pas plus gros qu'un haricot vert. Et c'est avec ce petit eine kleine haricot vert que vous vouliez faire l'amour à votre maman, bien sûr. Repas du dimanche, repas libidinal, la soupe à la crème, stade oral, la saucisse, stade phallique, et les flageolets, stade anal. Vous serez privé de dessert pour vous punir de votre complexe d'Édipe. Vous vouliez tuer votre papa, n'est-ce pas, naturlich, mais c'est lui qui a le plus gros couteau. Consolez-vous, le principe du plaisir triomphe le dimanche. Vous passerez par tous ces stades, football, handball, ha-ha-ha, the plaisante, les mots d'esprit, les rébus et les lapsus sont les mamelles de mon art du rêve, des traumandaitung. En ce jour de dimanche, Sonntag, jour de soleil, que tout soit clair, ce sera 200 shillings pour aujourd'hui et ça n'est qu'un début.
C'est très très fort pour une Hongroise qui a encore en français un léger accent hongrois et vous vient dire de prendre l'accent allemand.
Pas dessus.
Darum gab es bei uns gar keine Probleme. ist Wassermann und ich bin Fisch. Und das war immer für mich das Angenehme. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Darum war bei uns die Liebe immer frisch.
France Gall. Dimanche prochain, venez donc assister à nos papous dans la tête en direct de 12h45 à 14h le 22 mars au Salon du Livre de la Porte de Versailles, direction le studio France Culture, ouvert à tous. Avec moi dans cette chaude ambiance, Dominique Muller, Lucas Fournier, Eva Almassy, Serge Joncourt, Jacques Bertrand, Violaine Schwartz, Patrice Delbourg, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon et Pablo Gignoli pour la musique. Et tout commencera par un joli dimanche pastiche, le dimanche du petit Nicolas, et puis une histoire de bise et le DLA et tant d'autres jeux encore à découvrir dimanche prochain, puisque vous avez rendez-vous avec nous et réciproquement pour un numéro spécial des Papous en direct, suivi d'une rencontre dédicace au stand des coéditions de Radio France autour de nos livres collectifs, l'anthologie, le dictionnaire, 36 facéties pour des Papous dans la tête. Et ce sera l'occasion de se parler. Dimanche 22 mars, les Papous font salon. Tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, à la page vie du Club des Papous dans la tête et sur Facebook, où vous pouvez rejoindre notre petite bande entre amis. Printemps tout proche oblige. Nous allons reprendre les bonnes vieilles habitudes liées aux journées plus longues, à cette lumière, à ce soleil timide qui nous appelle au dehors. Je résume en deux lettres, magique pour certains, GR, détestable pour d'autres, Lucas Fournier par exemple. Vous nous racontez, Lucas.
Kerouac partait sur la route, Giono s'engageait sur les grands chemins, Traîné faisait courir ses jeunes années sur des sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs. Et de nous autres, quoi ? On fait le GR.
Oui.
Le GR. Attention, ne ressemble en rien à la promenade à la papa ni à la balade romantique. Non, le GR nous propose, que dis-je, nous impose, la grande randonnée.
Oui.
Et déjà, l'on pressent John Wayne franchissant des canyons désolés à la tête d'une caravane de pionniers. Grande randonnée. Et voici Jean-Louis Étienne dévorant la chair crue de ses chiens de traîneau pour tenir dans la traversée âpre et glacée des grandes steppes. En fait, non. Pas du tout. La grandeur de la randonnée du GR est plus indicible. Dans le GR, on ne dévore pas l'espace, on le digère. GR est l'appellation très contrôlée d'une autoroute pour orteils citadins. Avec ses panneaux indicateurs, qui signalent que la montagne en face culmine et que le chêne du Quercy produit de l'ombre. Avec ses aires de repos, balisées de tumulus, ou plutôt tumuli en bon latin, mais la Via Romana est loin du GR, ces édifices de pierre où chacun précisément apporte sa pierre pour ériger une sorte de stupa, la même sur quoi butait le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. Mais je m'éloigne et même beaucoup entre le GR et le Tibet. Il y a un pas, des millions de pas et de très chers pas d'ailleurs. Le GR ne se demande pas si l'art doit imiter la nature, il sait que l'art doit dominer la nature. D'où son attrait pour les peintures rupestres. Et primitive, très primitive. Ces traits bleus, rouges ou jaunes qui décorent avec goût les cromlechs du sentier des douaniers entre Plouganou et le Guilvinec, ou les rocs sauvages du Mont Caroux. Lequel Mont Caroux domine la Malouléba.
Ah bon, on est rassurés.
Ainsi, nul ne se perd et rien ne se crée sur le GR. Quand on emprunte le GR, on y croise des empruntés. Et aussi ceux qui empruntent des idées parce qu'ils n'en ont pas. Nous avons, pour notre malheur, près de la Malou, un GR qui va jusqu'à Compostelle. J'y avais croisé un couple et sa progéniture, tentant de faire avancer sous le cagnard et dans un nuage de mouches deux malheureux baudets, exaspérés par tant d'âneries. Le magazine de chevet de ces GRistes avait décrété qu'il était urgent de redécouvrir les Cévennes avec un âne, façon Stevenson. Une autre année, ils eussent pris un lama vers la Malou, puisque nous eûmes aussi cette mode-là. Le GRiste est un cas. Mais je m'égare. Ah,
vous ne l'avez pas compris celle-là, Serge. Non. Le GRiste est un cas.
Oui,
on était au lama juste avant.
Oui,
Voilà, j'en ai une qui me suit. J'en ai une avec son sac à dos qui me suit quand même, cramponné à ma foulée dans cette grande randonnée. Mais je m'égare. Or, sur le GR, on ne s'égare pas.
Non.
Et quand bien même on se retrouve toujours, on se retrouve même en plein milieu du troupeau des bipèdes GRistes. On les reconnaît à leurs chaussures de haute montagne, là où les locaux portent des espadrilles, ignorant sans doute le danger des vipères, des temps et des plantes venimeuses que rappelle Copain des Bois, ce manuel des castors juniors contemporains que tout bon gériste emporte toujours. Je ne sais pas si vous connaissez Copain des Bois, je vous le recommande.
Non.
Avec son couteau suisse et son aspivenin et son sérum et sa citronnelle et sa crème anti-UV et sa boussole et son compte-pas et son portable et ses bâtons de ski, tellement plus commodes pour marcher, et son blouson fluo pour être mieux repéré par l'hélicoptère des secours. Et quoi encore ?
Pardon, le tir-tique.
Et le tir-tique, merci.
Bah, évidemment.
Ah, on allait partir sans. Rassurez-vous, hein, parce que de mémoire de GR, on n'a jamais vu un GRiste se perdre dans la nature. Mais à vouloir ne se perdre jamais, ne risque-t-on pas de perdre tout simplement son âme ? Pauvre GR, pauvre sentier battu à coups de semelles de chaussures fabriquées au Vietnam par des enfants de 5 ans travaillant en usine. Pauvre sentier battu à plate couture par des cohortes de survêtements en polyamide étirés. Pauvre sentier battu aux bruyères et tuyas piétinés par des hordes sauvages de randonneurs. Oups, voilà que je parle de randonneurs. J'oubliais le terme technique. La rando.
Ouais. Ah.
La rando qui claque comme Rambo. La rando, comme disent les vrais professionnels. La rando et son GR, ainsi va la marche de ce siècle. Moi, la rando que j'aime, c'est le rondo. Promenons-nous dans les bois pendant que le GR n'y est pas. Quand le GR y sera, on se perdra plus. Mais tant qu'il n'y est pas, on se baladera.
Ouais, au fond, ce qui vous déplaît, c'est que vous n'êtes pas tout seul.
Oui.
Hein, c'est ça, non ?
Et puis, vous confondez le rondo et la ronde enfantine.
Oui. Faites-nous un peu des rondes en l'eau. Il va nous faire des rondes en l'eau. Fais-nous le rondo.
Le rondo est une forme poétique et la ronde enfantine, vous venez d'en donner un exemple.
Très joli, ma foi.
Oui, très joli.
Ouais, c'est très gentil de nous avoir fait un cours sur la différence entre la ronde et le rondo. Jacques Vallée, merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais avoir votre point de vue sur les GR. Je ne sais pas si vous êtes randonneur personnellement. Si
pas personnellement, mais je m'intéresse beaucoup aux sentiers parce que j'ai monté une association qui s'appelle SOS Sentiers Battus.
Ah, oui, évidemment.
Et j'écris à M. Lucas Fournier, votre pamphlet a retenu l'attention de notre association SOS Sentiers Battus. Je suis le créateur de cette association et j'en suis le président. De voir les pauvres sentiers qui autrefois reposaient en paix dans la nature, piétinés, défoncés, pilonnés, me fend le cœur. Et votre description de ces hordes sauvages labourant de leurs grosses chaussures de haute montagne m'a fait à nouveau prendre le mort aux dents. Voyez-vous, cher monsieur, nous ne cessons d'avoir des appels pour signaler ici une fondrière, là un passage éventré, là un bout de terrain affaissé, et nous ouvrons tout de suite un dossier. Nous envoyons alors nos enquêteurs pour accumuler des preuves. Nous avons des montagnes de dossiers, monsieur, et nous envisageons d'assigner en justice ceux que nous pourrions convaincre d'avoir martyrisé un sentier. C'est là que nous comptons sur vous, monsieur Fournier. Votre document sur le GR va être très, très utile à notre association. Vous avez l'air d'avoir bien observé le troupeau de bipèdes GRistes, notamment du côté de l'Amalou. Et c'est là que l'on nous signale depuis des années les sentiers qui ont le plus souffert. Aussi, nous comptons sur vous pour nous servir de témoins et enfin pouvoir confondre ces barbares. Je vous demande donc de prendre contact le plus rapidement possible avec SOS Sentiers Battus, dont vous trouverez l'adresse en tête de cette lettre. Bien à vous, Antoine des Pas Perdus.
Vous allez le faire, non ?
Mais évidemment. Je suis très heureux de cette initiative de SOS Sentiers Battus. Enfin, l'essentiel, c'est que ça marche.
Nous allons grimper l'arête du rocher, planter tout là-haut notre petit drapeau.
Prenons le sentier
j'ai trop mal aux pieds. L'arrêt du rocher me resterait au gosier.
Le panorama te plaira, là-haut tu feras avec la nouvelle caméra une bobine comme ça.
T'as pensé à celle que je ferais si jamais on tombait dans le piège de l'abominable homme des neiges.
Heidi Ho, par Pierrette Bruno et Bourville. Stylo en main, Eva Elmassi, Jacques Abertrand et Hervé Le Tellier, prêts à se soumettre aux injonctions de Jacques Vallée. Il va leur dicter un poème ou un bout de prose, c'est son choix, mais avec d'autres mots que ceux choisis par leur auteur. Métaphore, figure de rhétorique, périphrase, il a tout un arsenal, Jacques, à sa disposition, pour faire passer le sens sans dire les mots. Quant aux trois candidats à la texter, eh bien, ils ont chacun une belle imagination et l'humilité nécessaire pour suivre les contraintes sans tricher, pourtant à chacun son tempérament. Première partie, la feuille de route. D'abord, une précision, Jacques Vallée, les quelques lignes que vous textez, c'est de la prose ou des vers ?
Des vers très courts, qui vont deux par deux. Donc je ne ferai qu'une injonction pour deux vers en l'autre.
C'est bien, il faut coupler.
Mais c'est des moitiés d'Alexandrin à peine.
À peine.
Donc c'est des vers chétifs.
On découvre alors.
Alors le titre est une simple constatation, avec une idée de plus.
De plus qu'une simple constatation.
Oui. Pour commencer, vous reprenez cette constatation que vous mettez dans la bouche de quelqu'un d'indéterminé qui s'adresse en général.
Vous froncez les sourcils, Jacques.
Oui, je sais, c'est une habitude chez moi.
Mais vous avez compris.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est Dupont et Dupont, à mon avis.
Et puis, vous imaginez, avec un certain sens de la démesure, ce que ne signifie pas cette allégation.
Ah.
Ce qui était signifié.
Alors,
voilà, oui.
Premier exemple qui a trait au physique féminin. Deuxième exemple qui a trait à des végétaux. Le troisième exemple évoque une possibilité de déplacement farfelu encore dans le domaine végétal.
Un déplacement dans le domaine végétal ?
Oui.
Ah oui. Ça, je veux dire que la course des cactus, c'est assez...
Farfelu, oui. Ouais.
Et le quatrième et dernier exemple concerne les rapports amoureux.
Ah.
Six, vous donnez alors en trois vers, comme une évidence, la véritable explication de cette constatation du départ.
D'accord. Donc en tout, il y a combien de vers à peu près ?
12, il y en a un peu. 12 ou 13.
Mais 12 ou 13.
Il y a un 13 à la douzaine.
Il rime de barre 2, 13
oui.
Vers.
Oui. Eh bien, vous allez vous y mettre, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire, à la fin, je peux vous donner une indication.
Voilà.
Vous pouvez faire une pirouette.
Voilà, le déplacement parfait.
Qu'est-ce que vous entendez comme...
Je n'en dirai pas plus.
Tout le monde, si. Quanto tempo devo esperar? Quanto tempo mais? Si me trata mal, vai ter que me pagar. E quanto tempo devo esperar?
Donc, Eva Elmassi, Hervé Le Tellier, Jacques Abertrand, vous êtes prêts à énoncer ce que vous avez écrit sous la textée de Jacques Vallée ?
Mais tout à fait.
Tout à fait. Content de vous, fier de vous. Grand sourire d'Eva Elmassi.
Ah bon ?
Ça, c'est le sourire avant. Après, on verra. Jacques Vallée, on reprend vos consignes une à une. Le titre d'abord, je
le
crois.
Le titre est une simple constatation.
Alors, c'est quoi cette constatation, Jacques Abertrand ?
Encore.
Oui. Eva.
L'univers est en expansion.
Oui. C'est Hervé Le Tellier.
Fraîche et même glacée.
Alors.
C'est Eva qui est le plus près pour l'instant.
L'univers est en expansion.
Oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée.
Ah, il y a un plus.
Après.
Vous reprenez cette constatation que vous mettez dans la bouche de quelqu'un d'indéterminé qui s'adresse en général.
Alors, Jacques Abertrand.
Encore heureux, dit un imbécile à la cantonade.
Oui, encore heureux, c'est très bien ça. Eva Elmassi.
La physique a pris cette option, l'univers serait en expansion.
Oui, c'est oui, bien, bah, ça oui, se redit, oui. C'est parfait. Hervé Le Tellier.
La bière, C'est bon quand elle est fraîche et même glacée.
Et oui, parce que tiède, c'est épouvantable. Hein, ça, c'est vrai. Oui. C'est toujours Eva qui est, avec son côté très scientifique, quand même proche de vous.
Elle a repris l'idée exactement comme ça, mais ce n'est pas tout à fait la même idée. Hein, je vous dis.
Ah bon, d'accord.
Puis vous imaginez, avec un certain sens de la démesure, ce que ne signifie pas cette allégation. Premier exemple qui a trait au physique féminin.
Alors, Jacquard.
Non, chez la femme, jamais trop.
Oui, c'est-à-dire jamais trop bien, jamais trop jolie.
Jamais trop.
Il n'y a jamais trop de choses. C'est très proche de mon texte.
Ah, si vous le dites, alors. Eva,
une femme qui grossirait autant ferait régime, il serait temps.
Ça dépend des époques.
C'est un peu moins poétique, là, chez Eva.
Ah ouais, Hervé Le Tellier.
Oh, bien sûr, ça ne vaut pas la peau douce du creux peuplité.
Bah, c'est vrai.
Ce qu'il y a de mieux chez la femme. Évidemment.
Le creux-poplité, c'est pas facile à dire, hein, c'est vrai.
Deuxième exemple qui a trait à des végétaux.
Alors, Jacquard.
Des pissenlits, d'accord, mais sans racines.
Eva.
Un arbre qui atteindrait le ciel où ses abeilles stockeraient leur miel.
Eva, elle écrit beaucoup plus long que les deux autres. Est-ce que c'est plus en rapport
deux vers à chaque fois.
Oui, mais c'est des vers très courts.
C'est son côté en expansion.
Oui, non, j'ai mis octo, j'ai pas pu mettre juste six. Hein, c'est
moi,
sûr.
C'est deux vers, un modeste bouquet de violettes.
C'est beau.
Puis c'est mignon. Hein.
Oui, c'est mignon.
Il est prêt, il se rapproche, Hervé.
Oui.
Hein.
Ouais. Le troisième exemple évoque une possibilité de déplacement farfelu, encore dans le domaine végétal.
Jacques Bertrand.
Alors j'ai emprunté à Larousse et sans semer à tous les vents.
Oui.
Après les pissenlits.
Évidemment, évidemment. Eva.
Et moi j'ai emprunté à Stephen Hawking. Et donc je parle de clafoutis. C'est toujours l'image, hein, les cerises qui s'éloignent dans le clafoutis. Donc des cerises dans le clafoutis, quand ça gonfle, les fruits se fuient.
Mm-hmm. Les fruits se fuient. Oui.
Oui, elles s'en vont de vrai. Plus en plus loin.
Dans le clafoutis,
c'est loin.
Oui, ça dépend si on a laissé le noyau ou pas, mais en principe, dans le clafoutis, on enlève le noyau.
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est mieux. Hervé.
La danse lumineuse du plancton sous la lune.
Oui. On a du mal, mais on va les écouter sans les interrompre. Oui. Tout à l'heure, on a du mal à suivre les histoires, non?
J.A. Bertrand se rapproche. C'est plus précis.
C'est son genre. Au début, il est un peu lointain, voilà. Puis après, il vient à vous, Jacques Bertrand.
Tout est dans l'approche avec Jacques Bertrand.
Tandis que alors, au début, mais je suis ainsi.
Après, vous vous éloignez, oui.
Le quatrième et dernier exemple concerne les rapports amoureux.
Alors, là, on vous attend, Jacques Bertrand.
15 fois dans la nuit ne serait-ce pas trop.
C'est étonnamment près.
C'est vrai. Ah, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il est... Ben non, vous ne pouvez pas savoir. Eva Almasi.
15 fois, si, tu le fais exprès.
Enfin, le chiffre n'est pas tout à fait le même.
13 fois, mais... déjà fait. Mais...
comme j'ai indiqué dans la démesure, je trouve qu'il a ajouté un peu de démesure.
Ouais. Mais... Ah ben moi, Eva... ça déchante. Les couples seraient séparés, leur bonheur dans un trop grand pré.
L'expansion.
Oui, bien sûr,
on est dans l'expansion avec Eva. Oui. Hervé.
Ou un baiser furtif dérobé sous un Porsche.
Oh, c'est mignon.
Évidemment, merci. On n'a pas la démesure de Jacques Bertrand, mais
ça, on peut pas. Tout le monde ne peut pas avoir la démesure.
On n'a pas tous la même santé, hein.
C'est une approche, c'est une première rencontre avec vous. Voilà.
Non, mais il est romantique.
Voilà. Bah, c'est tout à fait son genre, Hervé Le Tellier.
C'est à mon honneur, si je peux me permettre, en comparaison avec le texte de Jacquard.
Ensuite.
Alors, vous donnez alors en trois vers, comme une évidence, la véritable explication de cette constatation du départ.
Alors, les trois vers, Jacquard.
Ne dites jamais toujours, ne dites toujours jamais, mais encore.
Ah, là, là, là. Bien.
C'est très très beau.
C'est bien, ouais. Et on retrouve le titre du début. Eva.
Or, nul Big Bang n'est à mon goût, la théorie de tout, on s'en fout, la pensée seule sert de levure à l'univers.
Oui, c'est cohérent aussi, oui, hein, parfaitement. Hervé.
Mais quand on a bien soif, une bonne bière fraîche, il n'y a pas mieux.
C'est mieux que le petit baiser sous le Porsche.
Franchement, quand on a soif.
Ah ben non, alors.
On peut écouter vos textes sans les interrompre, Jacques Bertrand.
Encore. Encore heureux, dit un imbécile à la cantonade. Non, chez la femme, jamais trop. Et sans semer à tous les vents. 15 fois dans la nuit, ne serait-ce pas trop? Ne dites jamais toujours, ne dites toujours jamais, mais encore.
C'est bien. Qu'est-ce que vous pensez, Lucas? C'est joli, non?
Ah, mais c'est magnifique.
Ouais.
C'est, C'est précis, c'est une petite goutte de rosée, là, sur...
15 petites gouttes de rosée.
Eva, la physique a pris cette option, l'univers serait en expansion. Une femme qui grossirait autant ferait régime, il serait temps. Un arbre qui atteindrait le ciel, où ses abeilles stockeraient leur miel. Des cerises dans le clafoutis, quand ça gonfle, les fruits se fuient. Les couples seraient séparés, leur bonheur dans un trop grand pré. Or, nul Big Bang n'est à mon goût, la théorie de tout, on s'en fout. La pensée seule sert de levure à l'univers.
C'est bien aussi, hein. Oui. C'est beaucoup plus long.
Parce que c'était en expansion tout
de suite.
C'était
C'est-à-dire, c'est une inspiration cosmique.
Il a été mis au thermostatis, ça donne toujours ça sur un poème de Eva. C'est...
Et vous, Hervé ?
La bière, c'est bon quand elle est fraîche, et même glacée. Oh, bien sûr, ça ne vaut pas la peau douce du creux peuplité. Un petit bouquet de violettes, la danse lumineuse du plancton sous la lune ou un baiser furtif dérobé sous un porche. Mais quand on a bien soif, une bonne bière fraîche, il n'y a pas mieux.
Il y a un peu de cette sagesse des nations dans ce poème.
C'est vrai ? Alors oui. C'est quoi ce poème que vous avez texté ?
Le titre, c'est « La vie augmente ». Quand on nous dit « La vie augmente »,
oui.
Ce n'est pas que le corps des femmes devient plus vaste,
ah,
que les arbres se sont mis à monter par-dessus les nuages, que l'on peut voyager dans la moindre des fleurs, que les amants peuvent des jours entiers rester à s'épouser. Mm-hmm. Mais c'est tout simplement qu'il devient difficile de vivre simplement.
C'est de qui, ça ?
Eugène Guinvic, un très beau poème.
Ah, oui. J'adore. Ah oui, c'est bien ça.
C'est très beau. Je trouve que leurs textes sont assez conformes. Oui. Effectivement, le texte d'Eva, dans la longueur des vers, est davantage conforme à l'original. Oui. Hervé et Jacquin ont fait plus court.
Ça correspondait quand même.
Et chez Guilvic, il s'aimait toute la journée. C'est encore plus que 15 fois dans la nuit chez Jacquin Bertrand.
Mais peuvent des jours entiers rester à s'épouser.
Bravo.
Não maltrate o que sou, aceite o que sou, não, não mude o que sou, não, não maltrate o que sou.
Não, 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 não.
E quem bate não lembra quem bateu, não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu, diz que o amor não vai matar. Quem bate não lembra quem bateu, não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu. Você me largou, me deixou, não quer fazer amor. Fala-me, 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 fala-me. Conta-me, 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 conta-me. E quem sou eu pra discutir, quem sou eu pra duvidar? Foi você que me largou, me deixou pra lá. Fala-me, 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 fala-me. Conta-me, 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 conta-me. Levo contigo toda a minha dor. Você me largou, me deixou, me falou, não quis mais fazer amor. Fala-me, 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 fala-me. Conta-me, 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 deixa tudo pra lá. E bate na porta do céu pra quê? Pra chorar e pra depois vir com seu blá, 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 blá. Não maltrate o que sou, aceite o que sou. Não, não mude o que sou, não, não maltrate o que sou. Não, 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 não.
Flavia Coelho.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Bien vu, Jeanne. Balade au pays des nouveaux signes. Alors, on peut naître sous le signe du taureau ou du cochon, de la balance ou du lièvre, et cependant se sentir plutôt hamac, ascendant, tasse de thé. On ne choisit pas son signe d'arrivée au monde, et c'est dommage. À défaut, on peut l'inventer. Et on poursuit tout de suite notre balade sans zodiaque avec Patrice Caumont, qui nous fait le portrait d'un signe différent de tous les autres. C'est nouveau, ça vient de sortir, Patrice.
C'est le signe des rêveries d'un promeneur solitaire au bord d'une étendue d'eau calme, à peine ridée par la brise.
Tout ça ?
Oui.
Vous pouvez le redire ? Rêveries d'un promeneur solitaire.
Le signe des rêveries d'un promeneur solitaire au bord d'une étendue d'eau calme, à peine ridée par la brise. Et qui plus est, quelle chance si vous êtes ascendant brioche.
Pourquoi ?
Car ça vous va vous donner encore beaucoup plus de chance dans la vie.
Ah oui, c'est enfin, la brioche, quand on a la brioche.
C'est un signe très positif, c'est un signe de bonheur.
C'est votre signe, Patrice ?
La brioche.
Oui, après, la brioche, et j'en suis fier. Oui. Et j'en suis fier. C'est mon ascendant, c'est mon ascendant.
Oui, oui. Vous pouvez nous dire un petit peu quand on est rêverie d'un promeneur solitaire.
Alors là,
ascendant
justement,
brioche.
Justement, c'est l'un des rares signes qui est déterminé par le lieu d'origine et non par la date de naissance. C'est le signe de ceux qui sont nés près d'une calme étendue au flot dormant. Le natif du signe, souvent brumeux et matinal, sera très vite dissipé, voire plein de turbulences, tout en gardant son air évaporé. Donc, ils sont nés soit au bord d'un étang, ou plus souvent d'un lac, comme Rousseau et Lamartine, ou Kawabata et Tchaïkovski, grands chantres du signe, jusqu'à leur mort. Ils sont nés sur les bords. Ils sont arrivés à terme dans les stations thermales riveraines. Leurs mères ont perdu les eaux là où d'habitude on les prend. Leur pierre, c'est le galet, dont le ricochet symbolise une vie pleine de rebondissements, tant ils ne cessent de chevaucher sur des lacs d'inconstance. Leurs fleuves sont l'Ophélie, le nénuphar et l'iris d'eau. Ils ont un penchant pour le roseau. L'obsession des nymphéas chez Monet, peintre du signe à fort ascendant brioche, ou des nymphettes chez Nabokov, plutôt ascendant chouquette, n'est due qu'à l'attraction lunaire et à ses croissants. Les lacustres sont d'abord des rêveurs, qui resteront toujours un peu confus sur les bords, et question boulot, ils garderont la tête sous l'eau et les pieds sur terre. Ils se feront poètes plagistes, musiciens de grenouilles, peintres pompiers, sculpteurs ostréiculteurs ou sénateurs gardiens de phare. Ils ne s'embarquent guère. Ils aiment être au bord, pas à bord. En bon crabe de littoral, les natifs du signe sont de gros dormeurs qui excellent dans la finance. Comme on dit à Genève, le guinguette au bord de l'eau. L'influence astrale de la brioche dorée les rend plutôt rameurs et explique leur difficulté à finir. Jamais ils n'achèvent et adorent se mettre en grève. Les natives du signe sont des femmes calmes et douces, des nonchalantes au cou de signe. L'ascendant brioche en fait des odalisques, des oisives somptueuses façon ingre ou d'opulentes baigneuses façon renoir. Ce sont des baudelairiennes étendues, des grâces assoupies, pleines de soupe et de soupirs. Méfiez-vous cependant de ces eaux dormantes. Elles ont une forme terrible. Dès que saute leur barrage de retenue, elles peuvent vous inonder d'un flot de textos en furie. Les solitaires du lac s'entendent parfaitement avec les natifs de la grenouille ou les libellules. Côté cœur, ils attireront les moustiques pour des amours éphémères. Mais seuls les papillons ascendants pain au chocolat feront naître chez eux une passion dévorante. En amour, ce sont des romantiques à qui, comme dirait Pascal Danel, il faut laisser la plage. Ce sont des vertères qui rêvent d'embarquer pour Cythère, mais sans pagayer pour autant. Pas pressés d'arriver, ils attendent qu'un zéphyr les pousse. Ce sont des Ulysses d'eau douce. Le lac les borde comme une maman le soir. Ils devront éviter la mer et le sel et la pleine lune, surtout les ascendants brioches au beurre, qui pour leurs amours attendront la lune en croissant. Les contemporains nés sous ce signe sont ou seront tous en analyse et n'ont de goût que pour Freud, Schnitzler ou Thomas Bernhardt, car leur ascendant brioche tressé les incline vers les viennoiseries. Leur livre de chevet, c'est bien sûr L'eau et les rêves de Bachelard, mais ils aiment aussi la Madeleine de Proust et toute la recherche du pain perdu. La religieuse de Diderot, Guy l'éclair et les pains au raisin de la colère. Leurs films cultes sont La femme du boulanger et le pétrin sifflera trois fois.
Ben évidemment, oui.
Ah oui, ben moi je me sens un penchant pour l'ascendant brioche.
Ah ben je n'aurais pas osé le dire, Jacques.
Mais pourquoi sont-ils solitaires?
Oui.
Enfin, outre le plaisir du... Je veux dire, tu ne l'expliques pas.
C'est vrai. Rêverie d'un promeneur solitaire.
D'accord. Oui. Mais donc tu ne reviens pas sur leur penchant pour la solitude.
Que ce soit les belles dormeuses baudelairiennes ou que ce soit les mères abusives féringziennes de la thalassothérapie, l'homme qui est né au bord de l'eau reste un rêveur solitaire et préfère effectivement se bourrer de gâteaux que de courir le guidou, le jupon et autres sports inutiles. Alors, de temps en temps, on fait des enfants à des nourrices. Mmh. On a des histoires de rubans. Mmh. D'ailleurs, c'est ce que dit toujours le rêveur solitaire. Il faut vivre ses nuits comme les dernières et son jour comme le premier.
Quelle sagesse.
Oh là là.
Mais oui, il n'y a plus rien à dire après ça. Rideau. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour à suivre jusqu'à 13h58. Un échange entre trois drôles d'épistoliers. La brève histoire des choses par Jacques Abertrand, aujourd'hui le barbecue. Et une chasse aux inédits avec Dominique Muller en pleine folie latine. Alors ils sont trois. A, le premier, Lucas Fournier, tout est inventé pour lui, écrit à B. Jacques Vallée, à propos de C, Gérard Mordillat, il a ses raisons pour passer par un intermédiaire, timidité peut-être, conflit d'intérêts à voir. De toute façon, Jacques Vallée transmettra ou pas, détournera ou pas, c'est un jeu d'imagination dans lequel chacun endosse un rôle et traficote l'histoire. Lucas Fournier, je crois que vous êtes quelqu'un de très célèbre pour ce jeu et vous avez une lettre à nous lire, de qui?
C'est une lettre de Wolfgang Amadeus Mozart.
Ouais.
À Louis Mayer.
De la métro Goldwyn.
Oui, absolument. Ah bon? Louis B. Mayer, producteur et fondateur de la métro Goldwyn Mayer.
Mmh.
C'est une lettre de mars 1985.
Ah oui.
Oui, oui.
Ça, c'est un peu déroutant, mais...
Mais c'est comme ça.
Non, mais ça arrive. Hein.
Lieber Herr Mayer, ich öffe die Sprache in Deutsch, weil ich weiß nicht die Englisch. J'espère que vous maîtrisez l'allemand. Je fais la traduction, c'est peut-être
oui,
plus simple, parce que la lettre est en allemand.
Hein. Compris, hein. Oui, oui.
J'espère que vous maîtrisez l'allemand, puisque pour ma part, je connais mal l'anglais, ou plutôt l'américain. Il ne vous a sans doute pas échappé que depuis mon requiem, je n'ai guère eu l'occasion de m'exprimer publiquement. De toute façon, j'ai l'éternité devant moi. Je ne connais pas le cinéma. Il y avait très peu de salles à mon époque, et en tout cas pas à Vienne à ma connaissance. Je sais seulement que c'est une sorte d'opéra de votre siècle. Je ne vous connais pas non plus personnellement, Lieber Herr Mayer. Puisque plus d'un siècle nous sépare. Sondern, ich brauche dich. J'ai besoin de votre aide. Et il y a urgence. L'Académie des Oscars, que vous avez fondée en 1927, m'avait invité à Hollywood pour recevoir une pluie de récompenses, 8 Oscars en tout, avec un film dont j'ai inspiré l'histoire, habité les personnages, conçu les dialogues et écrit la musique.
Amadeus.
Mm-hmm. J'étais bien content, vilain Gluck, de la petite cérémonie que l'Académie avait organisée et qui manifestement a plu. C'était ma première apparition officielle depuis 1791.
Ah oui, c'est
200
vrai.
Ans, alors vous pensez.
Ouais.
Après la réception des jolies statuettes, je suis retourné chez moi. J'ai réalisé alors que dans l'allégresse générale, j'avais rapporté du vestiaire un objet qui ne m'appartenait pas. Un fouet.
Ah bon ?
Oui, un grand fouet, avec une lanière cinglante. Là où je suis, avec les anges et les séraphins, je n'en ai aucunement l'utilité. Un fouet, c'est plutôt mal vu. Mm. J'aurais été dans la maison d'en face. Inferno où l'on flagelle, le fouet aurait eu du sens. Mais là, non. J'ai bien tenté de l'intégrer, ce fouet, dans ma Kleine Nachtmusik, avec des claquements allegro, mais ça ne valait pas le coup. De fouet, bien sûr.
Mmh.
Ce n'est pas le plus grave. J'ai surtout oublié, au vestiaire d'Hollywood, ce que j'avais de plus précieux, en dehors de Constance. Il s'agit de ma Zuberflöte.
Ma flûte enchantée. Flûte enchantée, ouais. Zut alors.
Mais oui, alors, même là où je suis, elle me manque. Et surtout, depuis, elle est disparue de toutes les versions de mon opéra. Ja, es gibt nicht mehr Flöte in mein Überflöte. Et das ist nicht super. Et il est probable qu'il y a eu un échange malencontreux et que c'est le propriétaire du fouet que je détiens qui l'a emporté par mégarde et par devers lui. Il s'agirait, si j'en crois l'inscription gravée sur le manche, d'un certain Indiana Jones. Sans doute un des artistes présents à la cérémonie. Indiana Jones. Je connais mal l'Inde, je n'ai fait qu'une marche turque, mais ne suis jamais allé au-delà d'Istanbul. Lieber Ermeyer, vous êtes un homme d'une influence colossale. Vous êtes le Mozart du cinéma. Vous n'êtes pas forcément en activité, mais votre force morale est énorme. Pourriez-vous vous charger de demander à cette Indiana Jones de me restituer ma flûte ? La procédure est simple. Le mieux est qu'il puisse se rendre dans la forêt du pays inconnu du premier acte. Ensuite, il combatte le dragon. Là, il trouvera un oiseleur nommé Papageno, à qui il remettra la flûte en échange de son fouet. Vous pouvez fignoler les détails du scénario si vous voulez. Vous pouvez même en faire un film. Ce que je veux, c'est ma flûte. C'est signé Wolfgang. Et PS, cette histoire n'est pas du pipeau.
Ah, ben oui, mais il a un vrai problème même, Mozart. Hein. Je ne sais pas si ça va beaucoup servir à Indiana Jones, comme vous dites, d'avoir une flûte, je ne suis pas sûre.
Ça peut lui servir, oui. On ne sait jamais. Hein.
Vous, en tout cas, Jacques Vallée, vous seriez Louis B. Maillard.
Je suis Louis Maillard.
Ah oui, vous êtes tous quelque part là-haut.
Oui, oui.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation ?
Ben, j'écris à ce très cher Indiana Jones.
Même avec l'accent Indiana Jones.
Oui, mais...
C'est difficile, je sais.
Indiana, vous le faites comme vous voulez.
Harrison Ford.
Voilà, qui est plus facile d'accès.
Oui. Très cher Indiana Jones, je sais que vous n'aimez pas être dérangé entre deux aventures, et que vous passez quelques jours en Dordogne à vous ressourcer dans des grottes.
Ah bon ?
Mais j'ai reçu une lettre de ce fou furieux de Mozart qui prétend avoir égaré lors de la remise des Oscars sa flûte enchantée, et que ce serait vous qui la détiendriez. Il aurait ramené à sa place votre fouet. Parfait. Une bonne occasion pour vous de renouveler un peu l'esprit de vos aventures. Le grand fouet à la lanière cinglante a fait long feu, votre genre Zorro commence à lasser. Tout lasse à la fin, le lasso lasse, aujourd'hui le fouet. Mes services financiers m'ont alerté de la baisse dramatique de l'audience pour vos dernières interventions.
Ah, dommage.
Ne cherchez donc pas à récupérer ce fouet. Pervers comme il est, le petit Wolfgang peut bien l'utiliser pour avoir des relations avec ses jeunes admiratrices et autres Wanda. Je lui conseillerais d'ailleurs d'entrer en relation avec mon grand ami, l'écrivain Sacher Masoch. Laissons donc votre fouet cingler vers un autre destin. Et considérons ce dont vous venez d'hériter, une flûte enchantée. Exercez-vous, Indiana Jones. Exercez-vous. Je vous préparerai bientôt un scénario où vous allez vous retrouver dans la jungle à la recherche d'un trésor, avec une armée de trafiquants contre vous. Il serait alors judicieux d'utiliser cet instrument comme le joueur de flûte de Hamelin pour les abîmer dans l'abîme. Quant à Mozart, je lui dirais « flûte ». Signé Louis Meyer.
Oh, mais il est très rigolo, Louis Meyer. Hein, oh, très amusant. Alors, Gérard Mordia, je ne sais pas qui vous êtes dans cette histoire. A priori, vous devriez être Indiana Jones, c'est ça ?
Je suis en quelque sorte son porte-parole.
Ah bon ?
Je suis le chaman Gorak Zibe. Et j'écris Louis Meyer.
Enchanté.
Oh, non, pour Mazin, moi, Thomas, waouh, grog, grog. Paolo, buono, grog. Salamito, patom, il carbonanime.
Ah, c'est passionnant,
ah,
hein.
Oui.
C'est beau.
C'est un peu comme de l'allemand. Alors, pour faciliter la compréhension, nous avons demandé à Henri Labbé, qui est l'épigraphiste de l'école pratique des hautes études et qui maîtrise 72 langues, de traduire la missive qui est parvenue à M. Meyer sur une peau tannée d'oroc.
Ah oui, carrément. Oui.
Moi, Gorak Zibe, chaman de la horde des Bouzanao, tueurs des féroces, invoquons le peleu-peleu qui nous a pourvu d'un nouvel animal aussi puant que bon à se mettre sous la dent. Nous, tueurs des féroces, seigneurs des ténèbres dordogniers, rendons grâce au peleu-peleu pour cette viande de fête qui nous est tombée du ciel par le trou d'en haut où nul jamais ne s'aventure. Esprit meilleur, tu as entendu nos chants, et ton chant est descendu jusqu'à nous par le bâton percé qui siffle. Honneur et gloire au peleux-peleux. Honneur et gloire à l'esprit meilleur et à son messager. La viande criante a crié sa joie quand toute la horde se l'est partagée. Au Mougingue, les petits bouts craquants et les billes de couleur. Au Gers, les bas morceaux. Au tueur des féroces, la liqueur rouge et chaude, les gros biscottos, les popos et les gras du bide. Moi, Gorak Zibeu, chaman de la horde des Bouzanao, tueur des féroces, nous t'adressons deux bâtons à trous pour te remercier, esprit meilleur. La bête criante en avait caché sous sa barbaque, et les Gers ont su percer les nonos pour en faire sortir le chant qui plaît au peleux-peleux. Ô esprit meilleur, par le peleux-peleux, envoie-nous encore de la viande criante par le trou d'en haut où nul ne s'aventure. Hawaha, hawaha. Ça, la fin n'est pas traduite.
Oh bah ça doit être une formule de politesse. Hein.
Je suppose.
Alors ça ne fait pas trop avancer les affaires de Mozart. Hein. Je suis désolée, Wolfgang. La flûte est perdue, mais vous avez un voyage possible pour aller la chercher.
Oui, mais je crois qu'il va rester là où il est, où il est très bien, où il a l'éternité devant lui.
Là, il en a deux qui lui arrivent.
Il en a deux.
Oui, oui, mais on ne sait pas très bien.
Si elles sont enchantées, ça, on ne sait pas.
Vendredi, c'est le retour du printemps avec ses pollens et nos éternuements, les oiseaux qui piaillent au petit matin et un incontournable de la belle saison après le GR, le BBQ. Brève histoire des choses par Jacques Bertrand où il sera question du barbecue. Jacques, on vous écoute.
La nostalgie, voilà ce que c'est. Un effet secondaire du progrès, un retour en arrière, un remords, un regret peut-être. L'argent qu'il a amassé en inventant et en vendant la modernité, l'homme le dépense chez les antiquaires. Après avoir imposé l'avion supersonique, il prêche la religion du vélocipède. Il prend le TGV pour aller faire un tour dans un petit train à vapeur restauré à grands frais et dont il faut descendre dans les côtes pour soulager la locomotive. Il abandonne le fauteuil club pour aller se coincer les doigts dans l'armature d'une chaise longue. Et pourtant, il finira comme tout le monde, en organisme génétiquement modifié. L'homme n'est-il pas déjà un OGM ? Mais restons légers. À une époque relativement récente par rapport à l'histoire universelle, l'homme avait conçu la cheminée, avec tout un luxe d'ornements, un dessus en marbre, un manteau, des chenets, une plaque en fonte représentant une scène paysanne, une crémaillère. Tout autour de la cheminée, il avait bâti une maison, un manoir, parfois même un château du Moyen-Âge. Il faisait rôtir agneaux, sangliers, un bœuf entier à l'occasion. Le guide ne manque pas de le préciser en plusieurs langues aux visiteurs du château du duc de Berlingot. Tout ça n'intéresse plus les héritiers du duc. Rien ne réjouit davantage les invités des nouveaux châtelains que l'idée d'un barbecue, prononcé barbecue, dans un parc de 10 hectares. Vous verrez, ma chère, c'est une drôlerie, des merguez grillées dans le parc d'un château du 17e, et vous n'allez pas me croire, c'est délicieux. L'homme est revenu au barbecue, autant dire à la guerre du feu. Barbacoa. Le mot viendrait de l'espagnol, matiné de haïtien et d'un idiome de la Barbade. Chez nous, il aurait donné barbac, que les Américains nous auraient renvoyé en modifiant deux lettres et l'accent, assorti d'un lot de sauces atroces. Or, nos ancêtres faisaient griller la barbac depuis longtemps à la broche sans plus de façon. Longtemps, l'homme avait dévoré la viande crue ou séchée, puis, passant au feu de bois, à la cheminée, au fourneau, au four électrique, à la cuisinière à gaz ou à induction, il finit par la faire trop cuire. Essayez d'obtenir une entrecôte saignante dans un restaurant anglais ou américain. Et avec le barbecue, il a finalement réussi à la faire brûler. Il n'y a pas que dans le faubourg Saint-Germain que le barbecue est populaire. Des tas de manifestations artistiques, des comices agricoles au Salon du Livre en plein air ne sauraient se passer de barbecue. Les parcours de manifestations Nation, Bastille, République sont parsemés de demi-bidons de pétrole posés sur le tréteau. Des centaines de petites saucisses s'y tortillent sur des grilles rougies au feu dans la fumée épaisse du charbon de bois. Pour les catholiques végétariens, ce spectacle doit évoquer irrésistiblement le supplice de Jeanne d'Arc. Et n'oublions pas la fête de l'Huma, dont le diminutif nous invite fort à propos à davantage d'humilité. Le barbecue fait le tour du monde par les jardins, les terrasses et les balcons. Dans la ceinture verte de Londres, de petites maisons toutes construites sur le même modèle, briques, fenêtres en saillie, bow windows et vitres teintées, jardin frontal et arrière-jardin, les premières fumées de barbecue, BBQ, me parvenaient peu avant 18h. Les derniers bruits de vaisselle peu avant 19h. C'était le moment où j'envisageais de préparer tranquillement un dîner assis à la française. Dans les campagnes de l'Hexagone, le barbecue du déjeuner dominical est rarement prêt avant 15h, à cause de l'apéritif, qui s'éternise en même temps que les conversations. Les Anglais auraient-ils moins de choses à se dire ? On croque des radis, des pistaches, des rondelles de saucisson. Il n'y a plus de braise, on recommence. Car le barbecue est organisé entre amis, en dehors des périodes électorales, les péripéties en sont généralement plutôt drôles. Les bons mots fusent, on sourit de remarques qui nous auraient peut-être un peu agacés avant l'apéritif. On restera pour le dîner. Le pire est le barbecue familial. Il se trouve toujours un cousin, un beau-frère, un neveu pour se prétendre spécialiste de l'allumage du charbon de bois et proclamer qu'il prend l'affaire en main. Vous trouvant ridicule d'utiliser des brindilles de bois, il entreprend d'aller récupérer au fin fond d'un garage des boulets d'anthracite, hautement toxiques, pour accélérer la combustion. De toute façon, à la place d'une délicieuse côte de bœuf, 15 jours en chambre froide, 10 minutes au four, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, après 5 minutes de repos, vous allez mastiquer des merguez calcinées, des chipolatas déshydratées et des saucisses de Toulouse qui auraient désespéré Claude Nougaro. Vous êtes invité dimanche prochain. Merguez, sardines, pourvu qu'il pleuve.
Non mais le pire c'est la sardine, ouais, c'est le barbecue sardine chez les voisins parce que ça empêche.
Je suis jamais allée à un barbecue.
Jamais. Oh, mais demandez à Jacques à Bertrand ou à Serge de vous inviter.
Je t'inviterai.
Stai seria con la faccia, ma però ridi con gli occhi, io lo so. Per oggi non ti scappo e stiamo insieme tutto il giorno, io e te, io e te. Andiamo al ristorante in riva al mare. Mi han detto che fan bene da mangiare. Il vino bianco è fresco e va giù bene come questo cielo grande su di noi. Vanda, ti abbraccio forte e poi ti do un bacio e poi ti dico frasi che non avevo detto mai. Carezze qui, carezze là, tutte da me che non ti ho dato mai niente. Vanda, scandalizziamo la gente.
Paolo Conte. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, la chasse aux inédits. Des inédits d'auteurs célèbres, il n'en sort pas tous les jours, mais souvent, les éditeurs en sont friands, les lecteurs aussi. Au Papou, nous chassons l'inédit. Et puisque le mot qui résume l'esprit des Papous, c'est le jeu, J-E-U, nous poussons jusqu'à faire semblant de les chercher tout en les inventant. Dominique Muller est la trouveuse du jour. Dominique, elle écrit beaucoup des romans, Les caresses et les baisers, Laguna Nostra par exemple, des biographies historiques, une série policière sous la Régence, Sauve du mal, et elle a encore des inédits plein ses tiroirs.
Elle a été éditrice aussi et prof de latin dans une autre vie, pas longtemps, mais tout de même. Et ça, peu de gens le savent. De son passé de latiniste, lui est resté le goût du latin, du jeu avec le latin et les auteurs latins qu'elle connaît vraiment bien. Et il faut être très cultivé pour bien jouer avec la culture, avec sa culture. C'est d'ailleurs le propre de l'esprit papou. Et papou, elle l'est, Dominique Muller, assurément et en toute simplicité. Alors on joue avec elle ou elle joue avec nous, c'est selon. On dirait, Dominique, que vous auriez cherché et trouvé des inédits.
Oui, j'ai trouvé, comme d'habitude, dans mon édition originale d'Artamène ou Le Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry, lis très souvent. C'est 13 095 pages. Et donc, très souvent, les choses tombent de là, parce qu'en plus, c'est une édition originale qui a 400 ans. Et donc, c'est bourré de dossiers, de machins. Ouais. Et là, qu'est-ce qui en tombe ? Un paquet de papier de format divers maintenu par un élastique d'époque romaine et intitulé « Dossier Cicéron ». Alors, à mon avis, la Scudéry a elle-même traduit ces pages pour les recycler dans l'histoire du grand Cyrus. Parce que vous savez tous... Là, je commence à parler en latin.
Vous n'allez pas nous donner tout en latin, mais en version traduite par Mademoiselle de Scudéry.
Oui, ça dépend. C'est très compliqué. Moi, j'ai très peu touché. Je voulais vous donner les choses telles qu'elles ont été trouvées. Oui. Mais donc, vous savez tous que Cicéron a écrit à son frère Quintilius « Ce siècle avait 1000 ans, Rome remplaçait Sparte. Oui. Déjà César percé sous Cyrus et sa caste. » Alors, ces textes, j'ai renoncé à les classer par ordre chronologique parce que, d'abord, les chiffres sont en latin et en plus, ce sont des lettres. Donc, c'est très, très
compliqué.
Donc, alors, ça commence par « Cher papa, j'ai la sapience que je devrais t'appeler pater, comme les autres puérils, mais je préfère un diminutif pour dire mon affection pour toi et alma mater, que j'appellerai mama, si votre duo est ok. » Studier la peinture à Rome n'est pas ma tasse de nectar, papa. À l'atelier, je suis frappée, raquettée, en tête de turc d'un certain Caravaggius. Ce type n'est pas clair. D'ailleurs, il travaille en clair-obscur, CQFD. Bref, il a tailladé mon serment des Horaces que je comptais présenter pour le diplôme. C'en est fini de mes espoirs. Cher papa, ton puéril ne sera pas non plus mathématicien. L'école est carrément nulle. J'y reçus le sobriquet « Et Cicéron, c'est Poincaré, tu vois le niveau ».
Ça date de la petite enfance.
Ah ben oui, oui, oui.
Et parce que c'est quand même parvenu jusqu'à nous, ça. C'est culturel.
PS, ce qui est sans doute l'abréviation de la formule de politesse « Populus salutat ». PS, alea jacta est. Alors ça, c'est une forme proverbiale que Stephanus Malarmus Hermeticus traduit en latin classique par « un coup de dé jamais n'abolira le Rubicon ». Dans le corps du texte, « ok » doit être un particularisme d'Arpinum, le municipe natal de Cicéron. Vous savez tous que les gens de l'époque mêlaient barbarismes et dialectes divers. Tous ont disparu, sauf le néologisme « papa ». Attesté pour la première fois ici est toujours en usage lorsqu'un enfant, quel que soit son âge, veut attendrir son père. Bon alors, deuxièmement, Caprice est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Assez Cicéro, advocatus sum, hic et nunc, à moi le processus des laïus, sans lapsus ni hiatus. Je ne ferai plus le Crésus en gibus, le Gugus en omnibus, l'Olibrius pour la Vénus russe qui me joua du Stradivarius, me laissa Rasibus, bon pour Emmaüs, un détritus.
Vous voyez, c'est ça le latin,
oui,
Patrice Minet.
Ça. Ça va vite. Hein.
Oui, celui-ci n'est pas traduit parce qu'il est assez compréhensible. Oui. Cette nana pleine d'astuces qui me suça mordicus le plexus, avec un rictus en plus. C'est un virus, le choléra morbus. Assez de rébus, de hiatus, de cactus, terminus, sinon gare au collapsus. Mon humus, c'est le consensus. Capri, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Basta cosi, nus.
Mais ça se chante, non, on dirait.
Oh, ah non, non, pas du tout.
Non, vous croyez pas ? Non.
On peut nous la refaire, ça.
Basta cosi, nus ?
Oui.
Cicéro, secoue-toi les puces. Alors ça, donc, c'est un billet en latin, délibérément non traduit, pour conserver la vivacité du tonus. Il apparaît, capital, la pierre angulaire, si on peut dire ça dans le cas de Cicéron, n'est-ce pas, de la carrière désormais tendue vers le labeur de l'orateur. Et alors, j'ai aussi des propositions au Sénat.
Oui.
Pourrait-on inscrire les discussions suivantes ? 1. Ne nommer les sénateurs que par leur patronyme. Nous perdons beaucoup de temps en Lucius Micinius ceci, Marcus Tullius cela,
ça,
Lucius
vrai.
Sergius par-ci, Caius Licinius par-là, etc. Murena, Cicéron, Catilina, Verres, ça suffit. Rendons à César ce qui est à César et débarrassons-nous du reste. Deuxièmement, changer la datation du temps. Non les îles, les nonnes, les calendes dont nos esclaves ont besoin pour noter les rendez-vous du mois, mais celle du cours des années. Je suis sûre que comme moi, vous vous y perdez dans votre âge qui avance pendant que l'année recule. Pensons à nos seniors qui ont l'impression que le siècle rajeunit tandis qu'ils vieillissent. N'est-il pas temps de remettre les pendules à l'heure, de repartir à zéro ? 3. Installer des boîtes à ordures près des autels à sacrifice. Le populo adore les aruspices. Nous ne pouvons les interdire, mais une fois lus les présages, entrailles et viscères traînent sur la voie publique. Mucius Puantius Pubellus fournira le matériel gratis, pourvu qu'il puisse y coller ses prospectus.
Ah, bah voilà.
Une sorte de Jean-Claude Decaux, si vous voulez.
C'est très précurseur, oui. Très bonne idée.
Voilà.
J'ai un léger doute pour la première fois là, sur l'authenticité de ce texte.
Mais pourquoi ?
À cause de la pendule.
Ah oui.
Il m'aurait dit que la clepsydre a besoin d'un peu d'eau ou de ça. Je n'aurais pas dit le contraire, mais la pendule.
La pendule homme ?
Ça mais fait si un peu ce qu'il
a dit.
Elle a traduit.
Voilà,
elle a traduit.
Les abrubus.
Alors, voilà. Voilà
c'est non, les ça, c'était pour la publicité. J'avais ça un peu plus loin.
Prospectus dans les abrubus, en effet.
La chasse aux inédits de Cicéron par Dominique Muller, c'est pour les papous dans la tête sur France Culture. On continue.
Je possède une liste de titres. A Crétinus Invendus Editor, incapable de trouver lui-même des titres accrocheurs pour mes œuvres. Franchement, catilinaire, philippique, de ceci, sur cela, à machin, et j'en passe, tu trouves ça alléchant ? Pas étonnant que mes tirages stagnent. Quand je pense que je me casse la tête à truffer mes pages de traits d'humour, de néologismes, de phrases mémorables, il n'y en a que pour ce Frolucus de Virgile. Vous remarquerez qu'il a une dent contre Virgile.
Ouais, absolument, oui.
C'est la jeunesse, Virgile, c'est l'avenir, c'est voilà. Il a trouvé le filon, lui, avec son acolyte mécène. Toi, tu n'as même pas 3 sous pour ma publicité. Tu crois que la célébrité tombe toute seule, surtout avec mon nom, Cicéron, pois chiche, verru. C'est ce que ça veut dire.
Oui.
Je sais, j'aurais mieux fait de prendre un pseudo comme Danunzius, Pasolinus, Boccacius. Mais c'est trop tard et je ne me cache pas derrière mon petit doigt, moi. Puise donc dans mes trouvailles, tu vas voir, elles vont avec tout. Il n'y a qu'à rajouter les noms selon le sujet. Plus dure sera la chute. De Catilina ou de Pompée, par exemple. Ça y est, tu captes.
Très
la poursuite
idée,
infernale.
Oui. Ah, c'est bien ça.
Pour
oui.
les guerres de César.
Oui, oui, oui.
La charge héroïque, toujours pour César.
Oui.
Papy fait de la résistance.
Oui.
Les Misérables, plusieurs tomes, parce que ça, à Rome, ça ne manquait pas. Touchez pas au Grisby.
Ah, même que, ça, oui, il l'avait imaginé. Oui.
Bas les masques, ça c'est pour la comédie. La Ventura, ça c'est en dialecte, pour toucher la plèbe. Crime et châtiment, quand on est avocat, évidemment. Le crime était presque parfait, etc. Secoue-toi les méninges, nom de Jupiter.
Il a été très pillé, Cicéron, hein, après, oui. quand même.
Bah,
oui. Et oui.
Il a eu beaucoup d'influence. Et, en fait, je me rends compte avec ces inédits qu'il a eu une influence énorme sur nous-mêmes.
Oui, donc, c'est ça, sur les cinéastes, les écrivains. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Mordillat ? Tous ces titres qui sont devenus des films, quand même, et qu'il avait imaginé, lui, il y a si longtemps.
Mais c'est exactement ça. Ça s'appelle du plagiat par anticipation, et c'est magnifique.
Oui. Un grand esprit. Voilà, c'est un billet assez plaisant qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit avocat. Quintus Flaccus Apuleius Abrutus Conardus. Je m'avance à la tribune des rostres, prêt à m'adresser au populo du forum, en vox populi que je suis. Et qu'est-ce que je vois là-bas tout au bout ? Rien, Conardus, rien. C'est une blague. Tu devais avoir construit au moins 3 étages aux îles de dernière, 3. Et je ne vois toujours qu'une misérable échoppe à pizza, surmontée de la ruine dont tu m'avais promis de dégager la plèbe qui s'y incruste. Pourquoi crois-tu que je t'ai acheté des esclaves, et non des moindres, forts comme des barbares, qui me coûtent un bras? Pour qu'ils jouent aux osselets, oui, avec les carcasses des expulsés, et subito presto. Ne recommence pas ton lamento sur les matériaux, la pluie et je ne sais quelles élucubrations. Laisse béton, connardus, mets-toi au turbin, jour faste et néfaste. Cet immeuble doit absolument être terminé au calendes de Maïus. Peu importe comment tous les immeubles s'écroulent à Rome, de toute façon je m'en tape la toge. Mais les appartements sont tous vendus et mes clients, de l'immeuble à Brutus, pas ceux de la famille, me menacent de procès, moi, un comble, en cas de retard. Débrouille-toi, monseigneur. C'est mon vieux, quoi.
Ouais.
Sinon, tu rejoindras les habitants.
Évidemment.
Ben oui. Sinon,
mais
tu rejoindras.
J'ai compris.
Ben oui, c'est du latin. Ouais.
Ben oui, c'est du latin. Ben oui. Sinon, tu rejoindras les habitants délogés dans les fosses de la ville. C'est Cicéron qui te le jure et crois-moi, sa parole vaut de l'or. Demain, je retourne au forum. Je veux voir un étage au moins. MTC, ça doit être Marcus Tullius Cicéron.
Ouais.
Et il y a une petite annexe, un court billet. Federicus Felinius, un peu de patience. Je sais que mon immeuble est le décorum de ta prochaine soirée, que tu as payé la location d'avance. Mais le lancement d'un produit est une chose, l'achèvement d'un chantier en est une autre. Inutile de me menacer. Si tu veux prendre un avocat, je suis le meilleur. De plus, ça te donne le temps de réfléchir, car je ne suis pas sûre que Satyricon soit un nom bien choisi pour un nightclubus, si c'est bon. J'ai aussi, alors très
oui, vous êtes tombé sur des trésors, c'est ben, énorme. C'est,
il n'était pas que avocat, cet homme-là. De toute évidence, je me rends compte qu'il était un tas d'autres choses plutôt qu'avocat.
Et est-ce qu'il allait au restaurant de temps en temps? Il a gardé des tickets de métro, bus ou de choses de l'époque.
Ben alors là, par exemple, il est invité dans un bar, qui s'appelle le Bar Barbare.
Oui.
Et en fait, il est membre d'honneur, c'est une espèce de club privé. Et il fait une espèce de discours pour les vétérans des légions conquérantes des territoires de l'Est. Un club très fermé. Le phare Est, notre nouveau monde, surgissant des steppes et des territoires linguistiques indo-européens, le barbare en avait marmar, idest plus que mar, de son ma barbarata, ce barbaratin aride et moribond. Oui, marmar des barbarbecues mal cuits par les barbarmèdes de ces snacks barbares au bord des chemins. C'est vous qui lui avez enseigné recettes et latin de cuisine. C'est vous qui avez repoussé nos limes au-delà de leurs limitesses, conquis les terrae incognitae pour les transformer en ces merveilleuses villégiatures ornées d'admirables ruines de temples. On est toujours l'étranger de quelqu'un, mais le barbare que vous avez affronté ici et là était l'effigie redoutable de la grossièreté, du champ barbardement général. Ces vandales, ces ostrogoths, vous n'avez pas craint de les civiliser, les uns comme les autres. Certes, de même que l'omelette ne se fait pas sans casser des œufs, comme je dis souvent, la civilité ne se fait pas sans massacre, et j'en vois ici beaucoup qui ne sont pas revenus. Mais vous leur avez apporté la désinvolture, la nonchalance, cette dolce vita qui désormais les engage à la douceur des plages, aux toges décolletées sous le soleil, ô soleil mio, tuo nostro. Leur melting pot, leur patchwork, s'est, grâce à vous, mué en romanitas. L'émotion me submerge, fier conquérant du Far Est. J'en bégaye, les mots me manquent. Je vais donc céder la place au barbariton qui entonnera l'hymne des légionnaires. Tiens, voilà du boudino, boudini, boudinus. Un dernier point, ceux qui veulent gagner quelques sesterces et s'y connaissent en briques me retrouveront à la fin de la cérémonie au barbare tabac du coin. J'ai une lettre de son épouse, une lettre de Terentia, son épouse, restée à Rome pendant que Cicéron est à Brindes, attendant tristement des jours meilleurs et surtout le pardon de César. Parce que, je vous la fais courte, avant la victoire sans conteste de César, Cicéron s'était trompé de cheval, si je puis dire. Il avait choisi Pompée, et donc c'était la guerre civile, c'est très compliqué. Donc, comme tout le monde, il est parti à la campagne, voilà. Et donc cette lettre de l'épouse qui restait à Rome est un exemple du climat très troublé qui règne alors. Fin 47, vous voyez.
Oui.
47, mais c'est après.
C'est après.
Voilà, c'est ça, si vous voyez ce que je veux dire.
fin 47 après.
Ben, c'est
expliquer, oui. Aminé.
Régissez.
C'est parce que le siècle part à l'envers, si vous voulez.
D'accord.
Oui, oui, c'est ce que Cicéron regrettait dans
une précédente. Moi, quand c'est trop simple, j'ai du mal à comprendre. Oui.
Mauvaise nouvelle, Marcus, je ne peux t'envoyer les pépettes que tu me demandes. À Rome, la vie est chère. Et qu'en ferais-tu à Brindes, dans les Pouilles ? N'en profite pas pour m'en chercher.
Des Pouilles. Des Pouilles.
Ça ne me fait ni chaud ni froid. Toutes ces années de harangue m'ont pompé. C'est une petite blague.
Ah, il est drôle, il est rigolo
dans
quand
les
même.
Pouilles.
Non, c'est son épouse, elle n'est pas gentille, vous allez voir. D'ailleurs, elle lui dit, tu es un has-been, Cicéron, rends-toi à l'évidence. Même notre affranchi Philotime est plus affranchi que toi en affaires publiques. Tu es peut-être allé à Canossa pour un baiser de Judas à César, mais cette réconciliation me fait une belle jambe. Quintus, ton couillon de frère, continue à traiter notre glorieux vainqueur de tyran. Arrange-toi pour qu'il ferme son clapet et pour ramener ta fille Tullia à la raison. Notre gendre Dolabella la trompe. Il entretient une poule avec sa dot. Cette midinette en est malade. Je te l'envoie. Rappelle-lui que son mari est un fidèle de César. C'est pas le moment de divorcer. En ville, plus personne ne m'invite. À cause de toi, je suis du mauvais côté. Par chance, Salluste m'aime bien. Et il est plus césarien que César. Lui, au moins, il a le sens de l'histoire. Si tu crois aller te prélasser à Tusculum, tu te trompes. Ou tu restes à Brindes, ou tu reviens à Rome pour te mettre bien en cours. Assez d'envolées oratoires, profil bas. Jusque à quand nous casseras-tu les oreilles et les pieds ? Quo usque tandem abutere, Cicero, patientia nostra. Terentia, ta matrone et Virago. Cette lettre est annotée en marge de la main de Cicéron. Note 1, famille, je vous hais. Note 2, c'est bien ma veine. César veut que l'an 9 ait 2 mois de plus. Rattraper l'année astronomique. Non mais il se prend pour un dieu. Plus longue l'année, plus nombreux les ennuis familiaux. Plein le dos. Terentia, Quintus, Tullia, Dolabella. Mon fou. Après moi le déluge. Et griffonné près du nom de sa fille, Tullia. Tout quoique, filia. Et oui.
Voilà. C'est magnifique, hein. Tous ces documents, vous avez des trésors là. Est-ce que vous allez en faire bénéficier une bibliothèque, donc ?
Oh, je pense bien. Ah oui, je pense bien. Je pense qu'on va se jeter sur moi pour essayer de les avoir.
Il va falloir en construire une, hein.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. À télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an, c'est le podcast. À réécouter 1000 jours à la page du 15 mars, page sur laquelle vous pouvez bien sûr poser vos questions, déposer vos remarques, suggestions, rubriques, commentaires. Et puis, pour tout savoir sur nos émissions publiques à venir, dimanche prochain, le 22 mars, Les Papous en direct au Salon du Livre à Paris. Et samedi 11 avril à Bordeaux, Les Papous passent la grègue. Pour tout savoir donc, direction la page Vie du Club des Papous dans la tête, notre page Facebook et l'agenda de France Culture. Au revoir, dans quelques instants vous retrouvez Antoine Perrault pour Tire ta langue et pour passer un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,